L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radiola.
3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'écoute de Radiola, web radio de proximité au pays de Dieulefi, Bourdeaux, Drôme, Monde. C'est un grand plaisir de vous retrouver chaque mardi à 9h30, toujours plus nombreux. Vous nous écoutez sur les ondes numériques et en particulier sur vos smartphones et tablettes grâce à l'application Radiola, mais aussi en podcast, sur le site radiola.media. Pour ces entrevues hebdomadaires, nous nous faisons les porte-voix, chères auditrices et chers auditeurs, des initiatives les plus réjouissantes de notre territoire rural, où il faut bien le dire, il fait très bon vivre, et si vous manquez de bonnes nouvelles par les temps qui courent, n'oubliez pas celle-là. Pour cette entrevue, c'est Christian au micro et à l'animation, accompagné de Thibaut à la réalisation, pour encore mieux vous satisfaire et nourrir vos grandes oreilles. Aujourd'hui, on vous propose de relayer une initiative sensible, humaine, à l'image de ce territoire et de ses habitants, une initiative qui dépasse nos frontières, physiques et morales, une initiative qui fait écho à ce moment irrationnel de la guerre, où la folie de quelques-uns fait chavirer la vie de nombreux autres. Si le conflit au Moyen-Orient voile nos regards sur les guerres qui se poursuivent en Ukraine et à Gaza, les drames humains, eux, ne s'évaporent pas. Et, comme souvent, au milieu des cendres, surgit l'espoir et les leçons d'humanité. Le temps de cette émission, je vous propose de partager une belle initiative, simplement humaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'Alaa Al-Katraoui, une poétesse palestinienne, une femme de Gaza et une mère meurtrie, une femme qui a ému et touché nos invités, qui nous font le plaisir d'être à nos côtés dans le studio de Radiola et qui sont ici pour partager avec nous leur mobilisation. Aussi pour permettre à Alaa de poursuivre son œuvre et sa résilience. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin au micro de Radiola Sophie Charby et Mathieu Hillon.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais bien.
Ça va ?
Oui.
Je vous propose de vous approcher un peu plus des micros pour qu'on vous entende bien. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez croisé le chemin et le destin d'Alaa Al-Katraoui ?
Nous avons croisé le chemin d'Alaa à travers la poésie et l'échange poétique qu'elle a établi avec Mathieu Hillon, qui est à côté de moi. Mathieu, peut-être tu peux expliquer comment... Tu as rencontré la poésie d'Alaa, peut-être à travers ce livre, Anthologie de la poésie gazaoui d'aujourd'hui, édité, on peut dire,
traduit
par Abdelatif Lahabi,
ouais.
Grand poète marocain. Et Mathieu est tombé sur une des poésies d'Alaa.
Ouais.
Et cette poésie, je crois, l'a touché profondément. Et ça a déclenché le désir d'un échange.
Mathieu ?
Ouais, c'est tout à fait ça. Comme je ne lis pas grand-chose à part de la poésie et que je vais picorer régulièrement à Sceaux et Gambade, donc dans le petit rayon poésie, ben un jour, il y avait cette tranche de livre et je la prends parce que je connaissais assez peu en fait, la poésie palestinienne.
Oui.
Et donc, un soir, je le découvre.
Vous lisez ?
Je lis. Je parcours donc ces poèmes de différents... Il y a 26 poètes gazaouis, donc Haïdar al-Razali, enfin vraiment plein de regards beaux, cruels, parfois avec de l'ironie.
Ouais.
Et à un moment donné, je tombe sur le poème d'Alaa. Mais il y a marqué très peu de choses d'elle. Née en 1990 à Gaza, enseignante au camp à l'UNRWA, elle a perdu ses 4 enfants dans un bombardement en décembre 2023. Donc, il y a rien d'autre, pas d'image, rien d'autre. Et après, un poème qu'on lira à un moment donné, voilà.
Ouais.
Et à la lecture, il y a deux petits poèmes, c'est juste ça, hein, c'est juste deux poèmes d'elle, et après on passe à un autre auteur. Et je ne sais pas pourquoi, c'est assez irrationnel aussi, il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi ce poème-là en particulier, pourquoi pas un autre, pourquoi elle Voilà.
Et
parce que c'est comme ça.
On ne sait pas pourquoi on est percuté.
Voilà.
On se laisse juste percuter.
Et à ce moment-là, donc vous êtes touché par sa poésie.
Oui.
Et vous rentrez en correspondance avec elle.
De là, j'écris un texte que j'envoie un peu par hasard à Abdelatif Lahabi, qui a traduit donc les poèmes de l'arabe au français. c'est devenu presque un ami, Abdel Latif, hein, il a plus de 80 ans. Et il est très touché par ce texte. Il me donne le contact d'Alaa. Il fait traduire le texte en arabe. Et il le fait publier aussi dans un média libanais. Et donc Alaa, via mon mail et via ce média libanais, elle prend connaissance de cette lettre que je lui adresse. Mmh. Et un mois plus tard, elle me répond. Et de là est née une amitié, en fait.
Et une correspondance ?
Tout à fait, une correspondance qui deviendra peut-être un livre, d'ailleurs, de correspondance.
Et cette correspondance est basée sur la poésie ?
Il est basé sur la poésie. À la fois, ça décrit son quotidien, à la fois, je dis, moi, ce que je vis ici dans mon champ ou ce que je ressens de ce qu'elle m'écrit. Il y a aussi parfois, bien sûr... c'est pas politique, mais quand une Palestinienne décrit son quotidien, il y a une dimension forcément historique et politique.
On imagine.
Mais aussi, et c'était pas présent dans le texte d'Abdel Latif parce qu'il avait un peu gommé cet aspect-là de sa personnalité, mais Alaa, en fait, c'est une poète mystique.
Oui.
Dans la plus grande tradition des poètes mystiques, soufis notamment, c'est complètement... Et ça, je le savais pas. Il se trouve que ça me parlait énormément, mais je ne le savais pas en lui écrivant. Et donc, il y a aussi nos échanges poétiques, parfois, virent à la mystique, on va dire. Voilà.
D'accord. Comment, justement, alors, est-ce qu'on peut décrire un petit peu plus son univers poétique à la...
Alors ça, c'est très très difficile pour moi de décrire cet univers poétique. Il est extrêmement... il est sensible, il touche... dans le sens où il touche les sens. Et donc, en tout cas personnellement, je me sens, quand je la lis, que ce soit à l'intérieur de moi ou à haute voix, c'est tout mon corps qui est en émoi. C'est l'émotion qui monte. Je ne sais pas, il y a une charge émotionnelle très très forte. C'est difficile d'expliquer ça. Je ne sais pas comment vous dire.
Ouais.
C'est juste immense.
D'accord. C'est une poétesse qui a déjà une forme de reconnaissance, je pense, importante.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Je pense qu'on a du mal un petit peu à imaginer que dans cet univers qui est celui de Gaza, ben, on crée, on écrit et on... Voilà,
on vit et on n'a pas d'autre choix que celui de vivre. C'est soit on vit, soit on meurt. Donc je pense que les gens qui vivent sont obligés de faire preuve d'une immense résilience, d'une immense force pour tenir le coup.
Et comment dire, Alaa était avant le 7 octobre, hein, si je ne me trompe pas, enseignante.
Oui.
Au sein de l'UNRWA.
C'est ça.
Alors l'UNRWA qui est une, comment dire, un dispositif qui permet effectivement de, j'allais dire, aux réfugiés palestiniens de s'organiser, d'exister, de survivre,
Et puis d'avoir des cours.
D'avoir des cours, c'est ça, d'entretenir
leur
la culture, l'éducation, voilà. Il y a eu l'événement du 7 octobre. Que devient la vie, ou ce qu'on en imagine d'Alaa après le 7 octobre ? Comment ça se poursuit, y compris son travail sur la poésie ? C'est compliqué.
Je peux pas vous dire les détails. Par contre, ce que je sais, c'est que au-delà du 7 octobre, ce qui a été le point de bascule pour Alaa, c'est la mort de ses 4 enfants dans un bombardement israélien. C'est la mort de ses 4 enfants qui a déclenché le livre qu'elle a écrit et qui s'appelle « Mon papillon qui ne meurt pas », qui a été édité au Liban. Et c'est le livre que nous attachons, que nous avons fait traduire et qui sortira en France aux éditions Le Temps des Cerises dans le courant du mois de mai. Et c'est une partie des poèmes de ce livre que nous allons lire lors de la soirée du 4 avril.
D'accord. Et on peut imaginer que c'est la poésie qui l'aide à traverser.
Je crois que la poésie, elle est tout entière poète, Alaa. Ouais. Donc, je crois qu'elle n'a pas d'autre moyen d'exister qu'à travers la poésie. En tout cas, c'est très difficile. Je vous parle de quelqu'un avec lequel j'ai échangé quelques SMS via WhatsApp. Quelqu'un dont j'ai lu la poésie. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner des grands détails. Tout comme je ne sais pas véritablement ce qui se passe à Gaza, puisque je n'y suis jamais allée. Mais en tout cas, je peux juste vous partager les émotions que ça me procure. Le peu d'échanges que j'ai eu avec elle, il y a quelqu'un là avec une force immense, un cœur immense, l'espoir qui ne tarit pas. Et je pense que c'est grâce à la poésie que son espoir, enfin, à la poésie et à sa foi, que son espoir ne tarit pas.
C'est ça. À quel moment vous vous êtes dit, c'est pas possible, il faut qu'on la sorte de là?
Ça, c'est Sophie Alric qui en parlerait, parce que donc l'échange poétique a commencé au mois de mai 2025. Mais on s'est échangé des lettres, des poèmes, etc. Mais pour ma part, au départ, j'avais même pas imaginé qu'elle puisse venir ici. Ou...
Oui.
C'était même pas la question, en fait.
Oui.
C'était une rencontre poétique, d'Amam. Et un jour d'été, juillet, je crois, je suis chez Alric et Sophie, à Marsanne, et je leur lis des poèmes d'Ala, et voilà.
Oui, et là, à la lecture de ces poèmes, on est abasourdi, on est extrêmement ému, il y a un long silence qui s'installe, et Alric dit et si on la faisait sortir de Gaza?
Et là,
ben, pareil, un grand silence s'installe, et je dois avouer un sentiment très paradoxal, c'est-à-dire un sentiment de soulagement. De pouvoir ouvrir une porte et enfin pouvoir sortir de l'impuissance.
Oui.
Et en même temps, un sentiment de « Waouh, qu'est-ce qu'on vient de dire? Dans quoi on va se lancer là? Ça va être terrible. Mais en même temps, voilà, ça a été le point de bascule et on s'est mis tous les quatre en action, mais en fait, dès le lendemain.
Et j'imagine que vous en avez informé Ala.
Ah, bien sûr que non, mais oui, évidemment.
et qu'elle est partie prenante
de ce
projet.
Mais oui.
Voilà, comment elle a réagi, elle?
Eh bien, en fait, effectivement, je lui ai posé la question, un peu comme l'a décrit Sophie, voilà, avec nos amis, j'avais lu tes poèmes. Ils ont proposé de voir si tu pouvais venir en France. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit oui immédiatement, parce qu'en fait, elle, le point de bascule, c'est depuis la mort de ses quatre enfants. Gaza est une terre extrêmement douloureuse pour elle.
Oui,
une terre de deuil, même si c'est une terre de... C'est sa terre, etc.
Oui, oui.
Elle est très, très palestinienne dans l'esprit. Mais en même temps, elle a un deuil à traverser, elle a à se reconstruire.
Oui.
Et donc, être sur le lieu où ses quatre enfants sont morts, c'est une épreuve.
Oui.
Donc, elle a dit oui. En fait, elle avait déjà essayé avant, et ça, je l'ai appris plus tard, de passer en Égypte pendant la guerre. Mais juste au moment où elle voulait passer en Égypte, le point de passage de Rafah venait de refermer.
Mm-hmm.
Donc, voilà, pour elle, c'était... Et du coup, depuis le moment où elle a dit oui... En fait, depuis le début, et c'est ça la force de notre groupe, Alric, ouais. Sophie, Julie et moi, qui sont vraiment le noyau dur, on va dire les quatre, c'est en permanence en lien avec elle.
Alors,
toutes les consultations.
Voilà, Ala est désormais partie prenante, vous êtes engagé, ça y est, vous savez que vous êtes engagé dans cette perspective. Qu'est-ce qui se passe à partir de là?
Là, au début... On est un peu perdu, en fait, en vrai, parce que moi, j'écris à droite, à gauche. Bon, comment on accueille quelqu'un de Gaza? Vraiment, j'y connais un peu rien. En fait, on est assez ignorant, en fait, de la cause palestinienne initialement.
Oui.
En tout cas, pour ma part. Pas ignorant totalement, mais vraiment pas très connaisseur, finalement.
Oui.
Et
puis des dispositifs aussi.
Mais c'est ça, mais je connaissais rien de dispositif en fait.
Comment ça fonctionne?
Qui m'a mis sur la piste?
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Je sais plus comment c'est.
À un moment donné, je tombe sur une bonne personne qui me met en lien. J'arrive plus à me rappeler qui c'est.
Vous êtes amené à un moment à rentrer dans des dispositifs, notamment, si je ne me trompe pas, vous déposez un projet Pause.
Ouais,
au collège. Vous expliquer un petit peu ça?
Alors, juste le dispositif, c'est qu'en fait, il y a une amie à moi qui s'appelle Héloïse, qui, je lui en parle, etc. Au hasard, comme ça, je dis, je ne sais pas comment faire, on va accueillir quelqu'un de Gaza, etc. Elle me dit, ah, mais mon amie d'enfance, Marion Slitine, qui est à Paris, c'est sa copine d'enfance, a monté le comité Mahan, qui est vraiment le comité de référence pour faire des dossiers, pour accueillir des Gazaouis en France, au niveau culturel, d'accord, etc. Donc en fait, à partir du moment où on s'est mis sur les rails avec le comité Mahan...
Vous aviez une porte d'entrée.
Bon, en fait, tout s'est éclairé, Collège de France, programme Pause... Mais avant ça, donc c'est vraiment un peu le hasard, entre guillemets, avant ça...
On ne savait pas du tout comment faire.
Patauger, en fait. Hein, vrai,
Pause, donc Pause, P-A-U-S-E, programme d'accueil en urgence des scientifiques et artistes en exil.
C'est ça.
Programme porté par le Collège de France.
Donc vous rentrez dans ce dispositif.
On remplit toutes les cases pour pouvoir remplir le dossier. On sait qu'on a une deadline au 26 août pour déposer le dossier. Donc pendant tout le mois d'août, vu que voilà, lecture de Mathieu nous lit les poèmes fin juillet, on passe tout notre mois d'août à remplir ce dossier. Oui. Le 26 août, on dépose ce dossier et derrière, on attend.
Alors,
quand Sophie dit on, c'est avec Alain.
Oui.
À Gaza, parce qu'elle devait faire une sorte de book, elle avait tout un tas de choses à faire.
Ah oui, il fallait qu'elle participe.
Et en fait, elle a passé des heures et des heures et des heures à faire son book, à écrire à une copine aux États-Unis pour qu'elle puisse le relire, avec un designer aux États-Unis qui lui fait la mise en page. Enfin, quand on dit on, c'est tous les cinq en fait.
C'est ça.
C'est pas les quatre en fait, quelque part.
C'est tous les cinq.
Sophie,
tous les cinq.
Mathieu, moi ce que je vous propose, c'est que nous évoquions plus en détail tout ce qu'il y a derrière ce projet artistique qui accompagne et sans doute qui conditionne le projet d'accueil d'Alaa. Je vous propose que nous fassions une petite pause musicale avec une chanson qui n'a jamais été autant d'actualité, née quelque part, un titre de Maxime Le Forestier. On se retrouve après.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Pareil.
Nous sommes de retour en direct dans les studios de Radiola en compagnie de Sophie Charby et Mathieu Yon pour poursuivre nos échanges à propos de la poétesse Ghazaoui Alaa Al-Khatraoui, de sa situation et de la soirée de soutien qui se déroulera ce samedi 4 avril, au Bled de Soupières. Mais avant de parler de cette soirée de soutien, si vous voulez bien, moi j'aimerais bien que vous nous disiez où vous en êtes dans les démarches qui vont permettre à Alaa de quitter Gaza.
Alors, le dossier de Alaa a été validé, accepté par tous les ministères de tutelle en France. Nous avons eu cette nouvelle à la fin du mois de décembre. Mais Alaa est toujours coincé à Gaza. Pourquoi ? Parce que la France ne délivre plus les visas nécessaires pour faire sortir les Gazaouis. Donc, nous sommes dans une situation un peu inextricable, mais nous ne sommes pas découragés. Donc, nous sommes toujours en action. Une tribune que Mathieu et Julie ont écrite va sortir très prochainement dans Le Monde pour justement expliquer cette situation que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire, d'un côté, un dossier est validé, elle est lauréate du programme, il y a eu beaucoup de demandes. Une dizaine de personnes juste ont été lauréats. Et depuis le mois fin décembre, elle est toujours coincée à Gaza parce que la France ne délivre pas de visa.
C'est en effet incompréhensible. Vous avez ici sur place des soutiens, des associations qui ont décidé effectivement dans le cadre du dispositif artistique que vous vous mettez en place, de vous soutenir. Les Gazelles, je crois.
Oui, l'association Les Gazelles, que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, va porter ce projet en collaboration avec la Bizarte.
C'est cela, voilà. Et en même temps, tout ça nécessite beaucoup d'argent, des fonds qui sont nécessaires, qui font partie du dossier.
Oui.
Vous pouvez nous en parler de ça ?
Le programme PAUSE demande une somme de 42 000 euros qui, à la base, donc pour accueillir les personnes pendant une année. À l'intérieur de cette somme, il y a évidemment un salaire et la création d'un projet artistique. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a environ 6 mois, cette somme de 42 000 euros était financée à 60% par le programme PAUSE et à 40% par les structures qui accueillaient les personnes. Sauf que depuis 6 mois, il n'y a plus d'argent. Donc ça veut dire que ce sont les structures qui doivent à 100% assurer le financement de cet accueil. Donc dès que nous aurons la date d'évacuation d'Alaa, nous devrons montrer que nous avons ces 42 000 euros. Nous nous sommes mobilisés avec Mathieu, Julie et nous pour pouvoir disposer de cette somme. Et à la suite, donc nous en disposerons. Et dernière, nous lancerons un crowdfunding pour pouvoir récupérer un peu notre mise.
Voilà, donc il y aura un appel à la mobilisation. On en reparlera tout à l'heure, à l'occasion effectivement de cette journée du 4 avril. Et comment dire, vous avez parlé des actions que vous meniez, la Tribune du Monde, Mathieu, excusez-moi. Vous avez également, une action très, très engagée. Vous pouvez peut-être nous dire.
Le banc, c'est ça ?
Oui.
Je souris parce que c'était très engagé, mais en même temps très, très lent. J'étais pendant 3 semaines, 10 heures par jour, très précisément de 9h à 19h, sur un banc devant l'Assemblée nationale, en octobre dernier. Donc voilà, c'est des formes d'engagement que j'aime bien, parce que c'est de... je me retrouve de moins en moins dans les actions rapides. Mais je cherche des actions du temps long. Et celle-là, on était une, très clairement. Donc j'ai attendu un rendez-vous avec le ministère des Affaires étrangères. À ce moment-là, Alaa n'était pas lauréate. Je n'ai pas eu ce rendez-vous, mais ça était loin d'être inutile. Beaucoup de députés sont passés me voir sur mon banc, de Marie Pochon à François Ruffin. On a eu des soutiens inattendus, une lettre de soutien de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. On a eu des avocats qui passaient me voir. Je devenais une espèce de plaque tournante de différents collectifs. Donc, une avocate de France-Palestine qui venait me voir parce qu'à ce moment-là, plusieurs associations déposaient un recours auprès du Conseil d'État parce qu'à ce moment-là, le ministère avait suspendu l'accueil des Gazaouis du fait de propos à caractère antisémite d'une étudiante qui a été renvoyée au Qatar.
Ouais.
Et du coup, ils attaquaient juridiquement ça pour dire que c'était non constitutionnel de condamner D'accord. la totalité des Palestiniens ouais. parce qu'une seule personne avait fait une faute.
Oui.
Et donc, voilà, j'ai rencontré toutes ces personnes-là qui portaient ces dossiers, etc. Donc, c'était un moment très fort.
Mmh, j'imagine. Et pendant ce temps-là, comment dire, vous gardez aussi, je pense, le lien avec Allah, qui doit vivre tout ça à distance. Oui. Comment oui. va-t-elle aujourd'hui?
Ça va.
Comment va-t-elle?
Ben elle va plus, elle est remplie d'espoir et de reconnaissance de voir notre action ici et de mmh. voir à quel point on se démène. Et en même temps, elle a des moments de grande tristesse et de désespoir, quoi. Donc ouais. Voilà, ça va, ça vient. Ça ouais. va, ça vient. Parce que ouais. la vie sur place à Gaza est extrêmement difficile.
Oui.
Est extrêmement difficile.
On l'imagine.
Et voilà, ensemble, okay. On essaye de rester dans l'espérance.
Alors, une bonne nouvelle aussi, c'est qu'une maison d'édition s'intéresse au travail d'Alaa, si je ne me trompe pas.
Oui.
Hein? Vous pouvez peut-être nous en parler.
Oui, bah en fait, il y a...
Le Temps des Cerises.
Le Temps des Cerises, donc c'est une maison d'édition qui est basée à Paris. C'est Abdelatif Labi qui nous a mis en lien avec eux. Mais en réalité, donc ce livre va sortir en mai ou en juin avec une introduction du poète Adonis, franco-syrien, mmh. sur qui Allah a fait sa thèse de littérature à Gaza.
Oui.
Donc ça a vraiment sens qu'en fait il fasse cette introduction pour son livre, spécifiquement pour son livre. C'est un monsieur qui a 95 ans, donc c'était...
Ouais.
Comment ça s'est fait en fait? C'est que sur le banc où ouais. j'étais, un jour il y a quelqu'un qui vient et c'est une des filles d'Adonis, Ninar Esber. Voilà. Elle a entendu parler de moi sur mon banc, elle vient.
C'était pas prévu.
Et c'est comme ça qu'on a pu entrer en lien avec Adonis.
D'accord.
Voilà. Et un jour, il y a
un immense poète.
Il y a sa fille ouais. qui arrive comme ça sur mon banc.
Ok. Et ça permet de déclencher un
ouais,
petit peu.
C'est plein de petits détails comme ça. Ça se fait à chaque fois par des moments
ouais.
imprévus, inattendus, ouais. mais qui produisent des grands effets. Donc il y a cette maison d'édition, mais en réalité, Allah, quand elle sera en France encore plus, je pense qu'elle est destinée à, je ne vais pas faire de prophétie à deux balles, mais à un grand avenir. Elle est peut-être lauréate, là elle fait partie des trois derniers finalistes. Alors, en fait, elle est très reconnue dans le monde arabe, Allah, pas encore ici, d'un prix aux Émirats Arabes Unis qui s'appelle le prix Shir Zayed, qui est un des plus grands prix littéraires du monde arabe.
Ouais.
Et elle fait partie des trois derniers finalistes dans la catégorie jeunes auteurs. Et elle va savoir bientôt si elle est finaliste. Si D'accord. elle est finaliste, si tout se passe bien, si la guerre s'arrête, etc. Elle aura une remise de prix à Abu Dhabi, avec 200 000 euros à la clé pour elle. Donc en fait, si elle a ce prix, sa renommée dans le monde arabe va encore se déployer encore plus, ouais. et peut-être même ici.
Et on espère que ça déclenchera la France à vouloir lui voilà. poser un visa sur son passeport.
Voilà, oui, exactement. Oui,
tout au bout d'un moment, ça va être un peu la honte quand même.
Oui. voilà.
Mais peut-être qu'un jour, elle sera prix Nobel de la paix. Et peut-être là, peut-être la France...
La France sera d'accord la France de l'accueillir.
Donc on vise le Nobel, qui en fait, sait. Pour être honnête. C'est notre prochain objectif.
Alors, parlons maintenant de la soirée de soutien qui se déroulera ce samedi 4 avril au Bled de Soupière. Soirée qui est proposée à la fois pour découvrir l'univers poétique d'Alaa Al-Qatraoui, mais aussi, bien sûr, pour soutenir votre initiative. Alors... Comment ça va se dérouler cette journée, soirée plutôt?
D'abord, je remercie le Bled d'avoir mis à disposition ce théâtre pour que cette soirée puisse se faire. Ce sera l'occasion donc d'abord de présenter notre projet, de présenter notre action,
ouais.
De parler du crowdfunding que nous avons mis en ligne sur Hello Asso. Il y a d'ailleurs un lien qui se trouve à l'arrière du flyer que l'on distribue justement pour faire la promotion de cette soirée.
Ouais.
Cette soirée démarrera à 19h30, donc par un explicatif de notre action.
Oui.
Ensuite, il y aura une performance poétique
oui.
Avec lecture en français et en arabe des extraits du livre « Mon papillon qui ne meurt pas » dont Mathieu vous a parlé tout à l'heure, qui est traduit et qui sera édité qui va sortir en mai-juin. Cette lecture poétique sera donc dite en français et en arabe, accompagnée de musiciens et de Masha Polivka, qui est danseuse derviche.
Oui.
Je jouerai avec la chorale que je mène, Salamanca. Nous jouerons deux chants, un chant palestinien et un chant arabo-andalou.
Mm-hmm.
Nous allons incroyablement pouvoir voir Alaa, puisque nous ferons un appel vidéo via WhatsApp. Et, ah. Et donc Alaa sera
présente.
Voilà, présente, en tout cas pour le début de la soirée.
Ouais.
Et je remercie d'avance les techniciens et Alric qui est en train de se démener pour que tout ça puisse arriver.
Ouais.
Et à la suite de ça, les Afronautes, qui est un groupe de musique africaine, un collectif de 20 musiciens, seront là pour jouer leur répertoire. Tout le monde est là gracieusement, puisque derrière, on va faire la fête.
Oui.
Et ensuite, il y aura un DJ Charbit qui sera là. À la fin de la soirée, il y aura, pendant la performance poétique, il y aura Mustapha Saleh, qui est un calligraphe.
Mm-hmm.
C'est lui qui illustre le livre d'Alaa, de ses magnifiques calligraphies, et il calligraphiera en direct la performance poétique. Et il mettra ensuite à disposition, en vente, les calligraphies qu'il aura faites pendant le spectacle.
C'est cela.
Au profit de notre cause.
Voilà. Et on le rappelle, hein, c'est important. Il y a aussi un engagement financier sur lequel il faut vous soutenir.
Mmh.
Hein, ce sera l'occasion de le faire à ce moment-là, mais mmh. aussi, voilà, comme vous le disiez, il y a moyen d'aller sur le site que vous indiquiez mmh. hein, et qu'on relayera sur comment dire, le site de Radiola. Est-ce que, avant de terminer, vous ne nous diriez pas un petit moment de poésie d'Alaa ?
Oui, Sophie va le lire parce qu'elle est plus douée que moi pour lire.
J'espère que je ne vais pas être submergée par l'émotion, parce que ce poème m'a tellement transpercée, je ne l'ai pas relu.
D'accord.
Depuis que Mathieu nous l'a lu.
Eh bien, écoutez,
je ne garantis rien.
Voilà, voilà. Merci.
C'est donc le poème d'Alaa que Mathieu nous a lu en cette fête de juillet 2025. Laissez-moi la voir. Ne serait-ce qu'une fois. Depuis la mi-mars, mon cœur s'est desséché. Plus aucun arbre n'y pousse pour accueillir les pigeons. Donnez-lui donc mes lèvres, qu'elle y dépose un baiser, même froid. Donnez-lui mes poumons, peut-être s'est-elle étouffée sans eux. Peut-être n'a-t-elle pas pu crier mon nom, tant les décombres l'écrasaient. Donnez-lui ma longue chevelure. J'aime quand elle la caresse de ses doigts en disant « Je vais grandir sur le champ et mes cheveux seront plus longs que les tiens. » Coupez donc mes cheveux pour elle et que l'aimée de ma vie ne meure pas en ayant les cheveux courts et un vœu à peine formulé. J'aurais peur pour elle si elle mourait avec des cheveux courts et un vœu inaccompli. Laissez-moi voir le visage de mon orchidée, ne serait-ce qu'une fois. Laissez-moi l'embrasser, même si c'est pour un baiser froid.
On va rien ajouter à cela. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Il nous reste vraiment à vous remercier, Mathieu, Sophie,
merci.
Pour ces moments partagés sur les ondes de Radiola, et surtout vous remercier pour ce que vous accomplissez. Venez nombreux au Bled, à Soupières, ce samedi 4 avril. Pour découvrir la poésie d'Alaa Al-Khatraoui et bien sûr pour soutenir cette formidable initiative simplement humaine. On se retrouve avec Gourmandise la semaine prochaine, même heure. Et bien sûr, on n'oublie pas toutes celles et ceux qui sont soumis au grand désordre de notre monde et pour qui nous avons une pensée particulière. D'ici là, ouvrez grand vos oreilles à l'écoute de Radiola, votre radio locale et citoyenne. Moi aussi, je suis ému. On se quitte avec Natacha Atlas qui nous parle de son ami La Rose. Bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.
On est bien peu de choses et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée.
je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Voilà Dieu qui m'a